Vous écoutez
RMC.
8h sur RMC, RMC Story. Un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal, à 8h avec Quentin Vinet. Bonjour mon cher Quentin.
Bonjour à tous. Des agriculteurs devant la maison des Macron ce matin au Touquet. Mobilisation contre le Mercosur malgré le report avant des réunions ce matin à Matignon. Et les blocages qui, vous le savez, continuent dans le sud-ouest le jour des départs en vacances. La plateforme Chine va-t-elle fermer en France? On aura la réponse de la justice aujourd'hui. Et les contrôleurs avec des caméras piétons ce matin à la SNCF et la RATP, c'est la nouveauté du jour.
Des agriculteurs manifestent ce matin devant la maison du couple Macron au Touquet.
Oui, on vous dit depuis ce matin sur RMC que la FNSEA, le premier syndicat agricole, appelle à poursuivre la mobilisation contre le traité avec les pays du Mercosur malgré le report, le répit qui a été accordé hier soir à Bruxelles. Et bien visiblement, j'ai été entendu puisqu'une cinquantaine d'agriculteurs comme Benoît Tillier sont depuis très tôt ce matin devant la maison des Macron.
On est arrivé ce matin à 5h30 devant la résidence du président de la République pour faire part de notre ras-le-bol général. L'idée, c'est de mettre un coup de pression, clairement. Hier, à Bruxelles, il y avait une mobilisation contre le Mercosur. On a appris, donc, à la suite de cette mobilisation qu'il était reporté d'un mois. Mais notre objectif, il est clair, c'est qu'il n'existe plus. C'est inacceptable, clairement. Il nous prend pour des moins que rien. Et ben, on est venu lui montrer que c'était pas le cas et qu'on l'avait à l'œil.
Alors vous avez bien compris qu'il y a une double colère agricole. Hein. Il y a le Mercosur dont la date de signature du traité a été repoussée à janvier sous la pression à Bruxelles de la France et l'Italie. Le temps de changer la nature du texte, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron durant la nuit. Emmanuel Macron qui trouve ce texte mauvais pour les agriculteurs français. Et puis il y a toujours la question des abattages de troupeaux en cas de maladie bovine. Là-dessus, les positions n'ont pas changé cette semaine. La mobilisation continue. Les syndicats agricoles vont être reçus les uns après les autres à partir de ce matin. Ça a commencé dans pas longtemps, à 8h30 à Matignon. Reçu par le Premier ministre Sébastien Lecornu, Thomas Becker du service politique à RMC en direct ce matin. Question, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir leur dire?
L'objectif principal, clairement, c'est de faire redescendre la pression. Sébastien Lecornu va devoir, comme il le fait sur le budget, tenter de trouver une voie de passage. Il y a d'abord l'urgence, l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Ce matin, il va rappeler la stratégie du gouvernement, abattage des troupeaux contaminés et vaccination accélérée. Le gouvernement a d'ailleurs mobilisé des vétérinaires retraités et de l'armée. Face au Premier ministre, des syndicats très remonter, surtout la Confédération paysanne et la Coordination rurale qui attendent des concessions pour lever les blocages. Alors faut-il y voir un premier geste? Hier soir, le ministre Laurent Panifous, qui accompagnait Sébastien Lecornu à la rencontre d'éleveurs en Ariège, ne s'opposait pas à une évolution du protocole une fois que tout le cheptel sera vacciné. Un comité scientifique pourrait se réunir prochainement, une façon pour le gouvernement d'associer les éleveurs et d'apaiser la colère à moins d'une semaine de Noël.
Oui, alors le gouvernement à ce sujet dit ce matin qu'il ne tolérera plus de nouveaux blocages. Il y a d'ailleurs un campement qui a été évacué hier soir sur l'autoroute A20 au sud de Cahors selon la préfète du Lot. Mais les autoroutes restent quand même fortement perturbées ce matin dans le sud-ouest, notamment la 63 et la 64 qui longent les Pyrénées et permet d'accéder aux vallées des stations de ski. Et il ne vous a pas échappé que c'est aujourd'hui, eh bien, le début des vacances scolaires. On s'en inquiète à Bordeaux, nous dit le correspondant d'RMC Pierre Bourgès.
Malgré le soutien qu'elle apporte aux agriculteurs, Marie, qui part skier dans les Pyrénées la semaine prochaine, a du mal à comprendre ce choix.
Autant les routes et tout, je peux être patiente, mais j'avoue que c'est mes seules vacances avec mes parents. Je pars reste 3 jours parce que je travaille le 30, donc ça m'embêterait un peu de ne pas pouvoir aller faire du ski. Avec eux, quoi. Je suis pas sûre que ce soit les bonnes personnes qui soient bloquées, en tout cas.
Un constat partagé par Maxime, qui profite aussi de Noël pour aller skier avec ses enfants.
Je pense que je serai un petit peu en colère, quand même, si j'arrive pas à monter. Si je suis ralenti, c'est pas très grave, mais si on peut pas y aller, ça va être embêtant. C'est-à-dire que là, je pense que les assurances fonctionnent pas trop.
Ces blocages pourraient coûter très cher aux stations qui s'attendaient à réaliser un très bon début de saison. Laurent Garcia, président des domaines skiables des Pyrénées, craint une baisse du chiffre d'affaires sur la période des fêtes de fin d'année.
À l'échelle des vallées des Pyrénées, c'est pas loin de 20-30% des recettes de l'hiver. S'il y a des difficultés à venir, je pense qu'il y aura au milieu des gens qui vont certainement se désister. On va tourner effectivement à bas régime et donc je suis inquiet effectivement sur les conséquences.
Conséquences déjà concrètes. Dans sa station à Péragude, les embauches de saisonniers supplémentaires prévues pour les fêtes ont pour l'instant été gelées.
Je précise que c'est une journée sur la route, journée classée orange dans le sens des départs, c'est même rouge en direction des Alpes.
Ouais, ça peut être pire, hein. Ça peut être pire selon les régions, selon les départements, selon les blocages. Alors on avait quand même la ministre de l'Agriculture dans la dépêche du midi qui demandait ce matin gentiment une trêve pour les fêtes. Là maintenant, on a la porte-parole du gouvernement qui dit nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages. Est-ce que c'est de nature à faire garer les tracteurs ou plutôt à mettre de l'huile sur le feu? Ça, c'est à vous de nous le dire au 32-16, bien sûr, ou sur le WhatsApp RMC.
L'autre sujet du sommet à Bruxelles, en plus du Mercosur, c'était l'Ukraine. Il était question d'utiliser les avoirs russes. Finalement, ça ne se fera pas, faute d'accord sur ce sujet également. Il a été décidé de prêter 90 milliards d'euros aux Ukrainiens. Emmanuel Macron affirme qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que d'autres le font, estime le président, sous-entendu les Américains, qui mènent en ce moment les pourparlers. Il y en aura de nouveau aujourd'hui, ça se passe en Floride. Donald Trump fait d'ailleurs pression en appelant l'Ukraine à bouger rapidement, c'est le terme employé dans les négociations pour mettre un terme à la guerre.
Autre dossier brûlant du moment, celui de la plateforme Chine.
Alors que le nombre de petits colis chinois explose en France, 5 fois plus en 3 ans, on en a parlé durant la semaine, la France veut fermer la plateforme après le scandale des poupées pédopornographiques qui étaient vendues sur Internet. Eh bien, c'est aujourd'hui que la justice va se prononcer sur cette suspension de 3 mois. Mais alors, Victor Joannin pour RMC, on peut déjà dire que ça paraît improbable.
Oui, même l'État a reconnu lors de l'audience que la suspension de la totalité du site serait disproportionnée. Mais la justice pourrait décider que la marketplace soit strictement contrôlée avant qu'elle ne rouvre pour éviter la présence d'autres produits illicites à l'avenir. Une marketplace que Shein a suspendue rapidement de son plein gré après la découverte des poupées pédopornographiques. Or, cette partie de la plateforme est importante dans sa stratégie de vente. Même si Shein ne touche qu'une commission sur les articles qui y sont vendus par d'autres fabricants, cette marketplace permet d'attirer une part importante des clients vers son offre pléthorique de vêtements et sa suspension explique sans doute, au moins en partie, les difficultés de Shein avec une chute des ventes de 45% dans les semaines qui ont suivi, selon une étude de l'application de shopping Joco.
Déclaration du matin, Rachida Dati, elle a toute sa place au gouvernement. C'est ce que dit la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, à l'instant. Elle le dit parce que les domiciles, le ministère et la mairie à Paris de Rachida Dati ont été perquisitionnés hier pour des faits supposés de corruption. La ministre de la Culture, qui est soupçonnée d'avoir perçu 290 000 euros d'honoraires de GDF Suez quand elle était députée européenne, sans en avoir déclaré la provenance au Parlement européen. C'est une des nouveautés du jour. Les contrôleurs peuvent désormais vous filmer dans les trains à la SNCF, dans les transports en région parisienne, à la RATP. Quelques 11 000 contrôleurs qui peuvent désormais porter une caméra piéton et filmer lorsqu'ils sont en service, notamment quand ils sentent qu'une situation peut dégénérer, Lucas Laubert.
Une caméra bien visible sur le torse des contrôleurs déclenchée manuellement en cas de tension. Hugo est assez sceptique.
Je me sens pas forcément 100% à l'aise avec ce sujet. Je pense que c'est un élément qui peut générer un stress chez l'usager.
Le but est de protéger les agents. En cas de danger, ils devront avertir la personne contrôlée de l'activation de la caméra. Vincent n'y voit pas de problème, mais il déplore qu'un tel équipement devienne nécessaire.
C'est plutôt un constat d'échec. Un contrôleur, c'est une sorte de figure d'autorité. C'est dommage d'en arriver là.
Cette caméra rassure tout de même certains voyageurs, comme Ludivine.
C'est une très bonne solution parce qu'ils n'ont rien comme protection, ils n'ont pas d'armes. Des fois, c'est vrai que les fraudeurs haussent beaucoup le ton.
Pendant les Jeux Olympiques l'année dernière, des contrôleurs avaient testé cet équipement. Une vraie réussite pour Cyril Manac. Selon le secrétaire général adjoint de Force Ouvrière au groupe RATP, la caméra permet de documenter les agressions, mais surtout d'en éviter.
Cette violence n'avait pas dévolu aux voyous, mais aussi aux madame et aux monsieur tout le monde. Et donc, chez cette tranche de la population, la personne avait regardé à 2 fois avant de déborder. Ça déclipse beaucoup de situations.
Le port d'armes non létal par les agents de sécurité comme le taser reste lui interdit car censuré par le Conseil constitutionnel.
Bon, et puis je vous signale que c'est un week-end de Coupe de France qui commence en football avec les 7 premiers 32e de finale qu'on vivra ce soir sur RMC. Ça ressemble un peu à la fête des voisins. On a tout un tas d'affiches régionales, par exemple Brest à Avranches, Guingamp contre Laval, Montpellier au Canet-en-Roussillon. Il y aura aussi Lens contre les voisins de Fény-Aulnois avec 7 anciens Lensois dans l'équipe de Fény.
Attention, Brest et Avranches, il y en a un qui est en Normandie, un qui est en Bretagne quand même.
Oui, mais ils sont voisins.
Le gagnant a le Mont-Saint-Michel. Le beurre salé.
Génial.
On fait comme ça. Merci Quentin Vidé. C'est le journal de 8h. La mobilisation agricole qui continue. Et Thomas, qui est en ligne avec nous depuis Melun, en Seine-et-Marne. On est dans un département francilien, mais un département franchement agricole, on peut le dire, la Seine-et-Marne. Bonjour Thomas.
Bonjour tout le monde.
Et vous avez appelé le standard. Vous avez dit blocage ou pas, Noël ou pas. Je soutiens les agriculteurs, c'est ça Thomas?
Absolument, moi je dois me rendre dans le centre de la France pour Noël. Je pense que je le ferai pas pour rejoindre ma famille, mais je pense que je le ferai pas parce que je sais pas si le blocage va persister ou pas. Mais voilà, moi j'en veux pas aux agriculteurs parce qu'il faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'on mange aujourd'hui. Moi j'achète français depuis des années et...
C'est un souci que vous avez quand vous faites vos courses de soutenir l'agriculture française. Mais alors, Thomas, dans la mobilisation, il y a les blocages de route. Là, ce matin, on apprenait quand même qu'il y a des tracteurs de la FNSEA qui manifestent devant la maison du couple Macron au Touquet. Vous soutenez toutes les initiatives, Thomas?
Absolument, à 100%.
À 100%.
À 100%.
Même si vous mettez, je sais pas, 12 heures à aller dans le centre de la France. Très bien.
À 300% même.
Et même s'ils ont obtenu un report de la signature du traité de libre-échange. Quoi qu'il arrive, vous êtes en soutien.
Absolument, je le soutiens à 100%.
Là, c'est entendu, le message est passé, Thomas. Merci beaucoup au 32-16. On continue d'en parler, on continue d'accueillir vos témoignages et vos réactions au 32-16 sur le WhatsApp RMC, le 0612-424-424. On passe à l'écho.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Lechypre avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Les futurs EPR, les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, oui, vont coûter beaucoup plus cher que prévu.
Ça vous surprend ?
Pas toujours, non. Il y a toujours une petite surprise
derrière.
Faut
reconnaître, non, mais il faut reconnaître
que... Il y a l'addition et la contradiction.
Voilà, EDF nous a quand même habitués à ne pas vraiment maîtriser ses coûts. On va rappeler que Flamanville, le premier EPR français, a été livré en 2024 avec 17 ans de retard. Il a coûté 24 milliards au lieu d'en coûter un peu plus de 3. Les EPR d'Hinkley Point au Royaume-Uni, 50 milliards de dérapage par rapport aux prévisions initiales. Et là, rebelote, j'ai envie de dire, puisque EDF nous dit que les 6 EPR 2 dont la construction devrait démarrer à partir de 2028-2029 coûterait désormais 73 milliards, soit une augmentation d'environ 40% par rapport au devis initial présenté en 2021.
Alors, 73 milliards, c'est votre dernier mot ou ça va encore augmenter, Emmanuel ?
Alors, bon, est-ce que le budget, cette fois-ci, va être tenu ? Alors, EDF nous dit, sur les 73 milliards, bon, il y en a 50 qui sont des frais incompressibles. C'est le chantier, c'est le génie civil, c'est vraiment les frais de construction. Et puis, il y a 23 milliards maximum, nous promet EDF, de coûts variables, à savoir les aléas techniques, l'inflation de tous les composants ou bien les délais, sachant que le design de ces futurs réacteurs n'est pas encore finalisé. Mais la clé, ce sera évidemment de tenir le calendrier. Si le calendrier est respecté, les dérapages seront contenus. Et donc, EDF a quand même des atouts dans sa manche cette fois-ci pour tenir le calendrier. Déjà, l'effet de série, hein, EDF compte sur l'enchaînement des chantiers des 6 réacteurs, finalement pour apprendre et réduire les coûts au fur et à mesure. L'objectif, c'est de réaliser 15% d'économie dès le deuxième réacteur, puis 10% sur le troisième pour arriver à 12 milliards le réacteur. Hinkley Point, c'est 20 milliards, donc c'est très ambitieux. Mais une autre nouveauté, c'est que EDF a décidé de s'inspirer de ses partenaires chinois. Hein. Il faut se rappeler que c'est EDF qui avait aidé les Chinois à construire leur premier EPR. Ouais. Les Chinois ont très bien réussi, eux, à construire leurs EPR. Et donc maintenant, on s'appuie sur les méthodes chinoises. On va chercher conseil auprès des Chinois pour réussir à construire nos propres
EPR. Triste, hein, ce que vous êtes en train de dire.
EPR. Oui, mais
on progresse, mais on a perdu un peu de savoir-faire en route.
Le savoir-faire, c'est délocaliser, lui.
Ouais, ouais. Alors, est-ce que, parce que c'est quand même la question qui intéresse aux auditeurs, ouais, et monter le son. Est-ce que l'électricité, à la fin, va nous coûter plus cher?
Alors, aujourd'hui, la Commission de régulation de l'énergie nous dit que le coût du nucléaire actuel, c'est 60 euros le mégawattheure. Les premiers nouveaux réacteurs, on sera sans doute autour de 130 euros le mégawattheure, donc plus du double, c'est à peu près le prix de Flamanville. Et puis EDF nous dit il y aura des économies d'échelle qui permettront une réduction des coûts de 30% entre la première tranche qui sera construite à Penly et la dernière qui sera construite à Bugey pour arriver à 70 euros le mégawattheure. 130, 70, tout ça nous fait une moyenne à peu près de 100 euros le mégawattheure sur plusieurs années, donc contre 60 aujourd'hui. Et quand je vous aurais dit que 85% de l'électricité qu'on consomme, c'est de l'électricité nucléaire, oui, il n'y a pas de doute, tout ça se répercutera sur notre facture d'électricité.
Merci Emmanuel Lechypre. Il est 8h13 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Et puis à 8h30, n'oubliez pas Laurent Neumann, ça c'est le face-à-face sur RMC et BFM TV, avec un homme qui connaît par cœur les arcanes de la négociation à Bruxelles. C'est l'ancien commissaire Thierry Breton. Juste après, on retrouve la semaine face à Canteloup. Ça c'est à 8h50. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours Demange.
Tous les jours. Donc aujourd'hui aussi, tous les jours, Arnaud Demange, bonjour mon cher
Exactement.
Arnaud.
Exactement, bonjour Mathieu, bonjour les amis. En ce moment, vous le savez, on ouvre les petites fenêtres du calendrier de l'Avent du LOL. Alors vous voulez la blague du jour ?
Allons-y.
Attention, ça va dénoncer, attention, tenez-vous prêts. Vous savez comment on fait une tarte tatin ?
Non.
Tu la mets dans le four, puis tatin.
Voilà.
Liberté. Charles de Gaulle s'est battu pour qu'on puisse dire des choses comme ça à la radio, Mathieu. Liberté.
Ah, je le dis à la radio, pardon. Oui. Chemise à bouton pression arrachée avec écrit liberté
dessous. Faut aller au bout du running gag.
Le féminin. Allez, lol, quoi.
Bref, c'est bientôt Noël et Mathieu, les amis, si vous aimez les sports d'hiver, Sachez que la région Île-de-France a ouvert un téléphérique entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. Vous avez vu ce truc-là ? Un téléphérique comme au ski, mais sans le ski, et à Créteil. C'est vrai que quand tu passes à côté de Créteil, tu te dis, c'est beau, hein, mais vu de haut, ce serait magnifique. Et ben, c'est un rêve qui se réalise. C'est que des tours dans ce coin. C'est les anciennes banlieues communistes qui adoraient Trotsky dans les années 50. D'ailleurs, vous le savez, Trotsky tue le ski.
Oh, oh, il y a une deuxième bascule dans le
Donc, c'est pour fêter Noël. Donc, ce téléphérique a été créé car il y a du trafic routier. Il fallait désengorger les routes. C'est dû au fait que Créteil est à côté de Paris. Hein, c'est tout. Parce que sinon, en soi, Créteil, tu gardes la même ville et tu la déplaces dans le Limousin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des bouchons pour y aller. On dit souvent voir Paris et mourir. Bon, bah là, c'est voir Créteil et avoir envie de passer à l'acte. Créteil, c'est le Garfunkel des villes. Bref, ce téléphérique, c'est bien pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller au ski. C'est cool pour eux. Ils peuvent payer un tour à leurs enfants, leur dire, tu vois, quand tes camarades de classe reviendront de Courchevel, tu pourras leur dire, tu sais, en Godefroy, moi aussi, je suis allé au ski cette année à Créteil. Ouais, il n'y a même pas de poudreuse à Créteil. Si, il y a plein de poudreuses dans tous les villes d'immeubles. À propos de drogue, Emmanuel Macron a annoncé une hausse de...
la transition acrobatique d'un demande.
C'est la fin de l'année, allez, on se lâche. Emmanuel Macron a annoncé une hausse de l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue. Ça passe de 200 à 500 euros. On change de stratégie. Au départ, on faisait dans le tout répressif. On envoyait les dealers en prison. Mais c'était un peu con parce que quand ils débarquaient en prison, il y avait tous leurs potes. C'est comme si on les envoyait en boîte de nuit, tout frais payé. Franchement, on les punirait plus si on les envoyait au cinéma voir un film français. Donc là, on va se faire un peu de thune sur les amendes. Mais à ce train-là, autant légaliser et taxer. Louis Sarkozy proposait ça l'autre jour chez nous. Légalisons. Les dealers sont pas d'accord. Mais bon, ils vont faire quoi ? Une manif ? Ils vont faire comme les paysans, ils vont brûler leur culture devant la préfecture. Olé. Avec la fumée que ça va dégager. Je garantis que la légalisation, elle ira encore plus vite. Hein. Allez les gars, on signe le décret. Buffalo Soldier.
Netflix va racheter le géant du cinéma Warner pour 83 milliards de dollars.
Oui. C'est 3 fois le budget du cinéma français depuis la création par les frères Lumière. Hein, vraiment. Et alors, ça inquiète les professionnels du cinéma qui craignent que les films soient juste pensés pour plaire à l'algorithme. Et merci, mais non merci, quoi. Quand tu vois ce qu'il te propose, l'algorithme, t'as pas envie que le cinéma...
Non,
Instagram, en ce moment, il me propose que des vidéos de types qui nettoient des tapis. Vous l'avez ça ? Et des vidéos de gens qui mettent des objets sous des presses hydrauliques. J'ai ça tout le temps, je m'en fous. C'est ça le genre de choses que tu veux voir au cinéma ? Des vidéos en intelligence artificielle, comme on en voit plein Twitter, avec des stars qui marchent à côté de leur version de eux-mêmes à 19 ans. Vous l'avez celle-là ? La tronche des Césars, ça va être quelque chose, hein ? Et pour la meilleure vidéo de gens qui découpent des gâteaux en trompe-l'œil, les nommés sont Julie Cupcake, Émilie Pâtisserie et Mélissa Muffin. La gagnante est... Mélissa Muffin !
Ouais ! Bravo !
Mélissa Muffin qui prend sa revanche après avoir perdu l'année dernière, battue par une vidéo... de chiens qui attrapent des saucisses au ralenti.
Et... moi, je peux regarder ça.
Ouais, ben, ça, des heures. Et elle a eu l'intelligence de se diversifier puisqu'elle a aussi participé à des vidéos de gens qui percent des points noirs et à des vidéos, ça existe vraiment, et à des vidéos de caméras cachées où des filles caressent la main d'un type en couple dans un escalator. Mélissa Muffin, une réaction ? Abonnez-vous à mon OnlyFans. Merci. Et maintenant, on passe au César du meilleur scénario. Les nommés sont... Mathieu Béliard pour avoir écrit « Dis ChatGPT, tu peux m'écrire un scénario ?» Géraldine Demory pour « Dis Grok, tu peux m'écrire un scénario ?» Virginie Fulpin pour « ChatGPT, j'écrirais bien un scénario, ça devient accessible. » Dominique Besnéard, il va avoir des projets de films fous sur son bureau. Incroyable ! Effectivement, Mathieu, effectivement les amis, j'ai reçu un projet fascinant de Quentin Dupieux. Et Christian Clavier, qui découvre un jour un tapis tout sale et il décide de le laver. C'est André Luciolier qui joue le rôle du tapis, c'est incroyable. Il est minéral, il est antique. Christian Clavier poste la vidéo sur TikTok, s'aperçoit du succès et découvre que sa fille, c'est Laura Felpin, a fait fortune en filmant des chats qui ont peur d'un concombre et qui tombent d'une table de cuisine. Vous l'avez celle-là aussi?
Oui, j'ai vu celle-là.
Ensemble, ils montent un salon de coiffure et ils postent des vidéos où ils font des dégradés à la tondeuse à des gens qui s'étaient pas coupés les cheveux depuis 4 ans. Ça s'appelle Algorithme le film. On a prévu 18 et la troisième va vous étonner.
Merci.
Allez, bon week-end.
Merci Arnaud Demange. Ça fait peur pour le cinéma, mais merci. On vous retrouve tous les jours, bien sûr, mais aussi en podcast. Et puis en tournée partout en France avec un nouveau spectacle à Lyon, à Bordeaux, à Creuswald.
Ouais.
Hier, à Versailles, à Poitiers, à Épinal, partout ailleurs.
Partout.
On dirait la Coupe de France.
Ouais.
Un spectacle RMC et un super cadeau de Noël.
N'est-ce pas?
Disons-le. Il est 8h23 sur RMC.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Et si on vous offrait de l'argent? Qui dit non? Qui dit non?
Moi, je dis oui.
Et Sandrine, qu'est-ce qu'elle dit? Sandrine, dans le 14e à Paris. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour.
Comment ça va Sandrine?
Ravie de vous entendre.
Moi, j'imagine que vous êtes contente parce que vous avez envoyé Noël au 732-16. Vous avez été tiré au sort. Et tout ce que vous avez à faire, c'est écouter. C'est écouter quand on va ouvrir la case du 19 décembre. Vous êtes prête Sandrine?
Oui, oui.
Vous savez que c'est une spéciale cash aujourd'hui, hein?
Oui.
On va vous envoyer de l'argent.
Attention. Ah ouais?
C'est indécent.
Ouais.
Je le dis ou pas, Sandrine? C'est 5000 euros.
Bravo.
Ah ouais.
Ça rigole pas. Hein. Ah, j'ai choisi mon jour pour remplacer un pot, moi. Wow. Une fois, un cadeau, 5000 euros. C'est pour vous, Sandrine?
Oui, merci.
Ça fait beaucoup, hein?
Énormément.
Ah ouais. Bah, ça fait du bien juste avant Noël aussi, je pense.
Ouais.
Exactement.
Bon, Sandrine, responsable commerciale à Paris, qui va repartir avec 5000 euros. En plus, on est dans l'arrondissement d'à côté. On peut passer vous voir et vous faire le chèque.
Et puis, on
Sandrine,
partage.
On prend vos coordonnées en antenne.
Un gros chèque comme à la télé.
Et on vous envoie le chèque de 5000 euros. Bravo, Sandrine. Et on rejoue dans les grandes gueules et tous les jours jusqu'à Noël. Il est 8h24 sur RMC tout de suite. Laurent Neumann, le face-à-face avec Thierry Breton, l'ancien commissaire européen. On va parler de la signature de l'accord avec le Mercosur repoussé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est sur RMC et BFM TV à suivre. Merci d'écouter RMC, il est 8h26.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
Des agriculteurs manifestent devant chez les Macron au Touquet dans le Pas-de-Calais. L'annonce du report de la signature de l'accord avec le Mercosur n'a pas calmé leur colère. Répit obtenu hier à la Commission européenne par la France et l'Italie. Des actions encore prévues aujourd'hui, notamment près des stations de ski des Pyrénées. Le gouvernement ne tolérera plus de nouveaux blocages, prévient sa porte-parole avant une réunion à Matignon avec les syndicats agricoles. La porte-parole Maud Bréjon qui appelle aussi les sénateurs et les députés à ne pas confondre budget 2026 et présidentiel 2027. C'est aujourd'hui qu'ils doivent aboutir à une version commune du budget en commission mixte paritaire. Tous les parents d'un bébé né à partir du 1er janvier prochain pourront bénéficier du nouveau congé parental, annonce le ministère de la Santé. 1 ou 2 mois par parent, en plus des congés parentaux déjà existants. Et puis plus de 185 000 jouets dangereux détruits en 2024 en France, selon la répression des fraudes qui alerte sur les jouets vendus sur les plateformes de e-commerce.
C'était le rappel des titres. Merci Clara Gabillet. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Laurent Neumann reçoit Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Laurent Neumann.
Il est 8h29 sur RMC et sur BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes commissaire, ancien commissaire européen au marché intérieur et donc on a besoin de vos lumières pour comprendre ce qui s'est joué, notamment hier à Bruxelles avec ce report du traité Mercosur et cette nuit avec la prise de parole d'Ursula von der Leyen. Mais vous êtes aussi ancien ministre de l'économie et là aussi on a besoin de vos lumières sur ce qui va se jouer dès aujourd'hui, la fameuse commission mixte paritaire. Est-ce qu'on aura un budget de la nation pour Noël? Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette crise agricole et peut-être sur ce qui est d'une certaine manière l'actualité du matin. On a l'impression qu'au gouvernement il y a deux discours. Sébastien Lecornu qui d'un côté reçoit dans quelques secondes l'ensemble des organisations syndicales, donc on a l'impression qu'il envoie un message de dialogue avec les agriculteurs, et de l'autre Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui dit à partir de maintenant on ne tolérera plus aucun blocage. Donc on a l'impression qu'il y a le dialogue, la fermeté. Vous qui avez passé des années à négocier, c'est la bonne façon de faire?
Je crois que d'abord, ce qu'il faut dire, Laurent Neumann, c'est que la France entière, est derrière ses agriculteurs. À une très, très large majorité, nous soutenons les agriculteurs, y compris dans leur combat contre le Mercosur, et on va y revenir. Donc je crois qu'il faut que les agriculteurs le sachent. Aujourd'hui, le pays est avec eux. Le pays a entendu leur mal-être, les problèmes dont ils sont des victimes, leurs conditions. Et le pays se bat pour eux. La meilleure preuve, c'est que cette nuit, à Bruxelles, on a obtenu, et le président de la République n'est pas pour rien, Madame Meloni non plus, le report de la signature du Mercosur. On va voir comment elle va utiliser le temps précisément qui est devant nous, parce que cet accord, je le dis, doit être revu. Il n'est pas satisfaisant à l'État. Et le pays est donc avec eux. Donc, moi j'ai pas de conseil à donner à quiconque, vous le comprendrez bien, ce matin à votre micro. Il n'en demeure pas moins que, bien sûr, il faut dialoguer, il faut comprendre, il faut voir comment on bâtit ensemble ce dont nos agriculteurs ont besoin. Mais aussi, il faut évidemment, bâtir ce que nous allons faire ensuite ensemble. Donc, c'est pas la peine.
On sent bien, Thierry Breton, avec ce qui se passe là encore. On parlait de ce qui est en train de se passer au Touquet, devant la résidence d'Emmanuel et de Brigitte Macron. On voit bien la colère des paysans. On voit bien que ce report du traité du Mercosur, il est très insuffisant pour calmer la colère. Et d'où ma question, est-ce que le fait d'envoyer des messages de fermeté sur les barrages, est-ce que c'est au fond la bonne façon de faire, même si on est à la veille des vacances de Noël?
La bonne façon, c'est évidemment de discuter, de les accompagner. Je crois que pour eux, c'est de comprendre que malgré tout, cette nuit, ils ont obtenu, évidemment, quelque chose qu'ils demandaient, et ils avaient raison. Bon, ben maintenant, c'est pas la peine, encore une fois, de prendre les Français en otage, et en particulier, me semble-t-il, pour les fêtes de Noël. Il vaut mieux, effectivement, se mettre ensemble, et puis voir comment on va bâtir précisément les rapports de force, pour qu'en janvier, alors on sait pas quand, on va parler évidemment de ce qui s'est passé cette nuit, eh bien voir comment, ensemble, avec les agriculteurs, on pèse pour, si jamais Mercosur, il doit y avoir, et je le dis, cet accord, il y a des côtés qui sont positifs, et en particulier pour l'industrie, pour les produits, évidemment, qui ne sont pas les produits agricoles, mais pour tout le volet agricole, voir comment on peut le renforcer pour qu'il soit acceptable pour
alors,
tous
je vous dis parce
et pour
que
nos agriculteurs.
Juste avant de rentrer sur ce plateau, vous m'avez dit, j'ai regardé jusqu'à 4h du matin la conférence de presse d'Ursula von der Leyen, j'ai tout suivi. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier pour qu'elle soit obligée de reculer, pour que Giorgia Meloni change d'avis et finalement rejoignent le camp des anti-Mercosur. Il s'est passé quoi concrètement dans la coulisse ?
Il s'est passé d'abord que, vous savez, pour pouvoir, d'abord sur cette affaire du Mercosur, pour pouvoir le signer, la présidente de la Commission avait décidé, j'allais dire quoi qu'il arrive, d'aller ce samedi le signer donc au Brésil. Mais évidemment, pour ceci, fallait-il encore que tous les États membres, en tout cas la majorité qualifiée des États membres, lui donne son feu vert.
Qu'il n'y ait pas de minorité de blocage.
Ça veut dire que la minorité de blocage, pour nos téléspectateurs, c'est qu'il y a au moins 4 pays, s'il y a 4 pays qui bloquent.
Et 35% de la population. Européenne.
Donc évidemment, avec la France, la Pologne et l'Italie, c'était plié, si
pourquoi
vous permettez
Mme Meloni a changé d'avis? Ça va nous compter combien, d'ailleurs, son revirement? Elle a cherché à négocier quelque
alors,
chose?
Alors on verra. D'abord parce qu'elle aussi, elle a des agriculteurs, et elle aussi, en Italie, les agriculteurs disent la même chose que nos agriculteurs à nous. Donc elle les a entendus. Et puis bon, Mme Meloni, on sait que c'est une négociatrice. Donc avec elle, bon, faut pas lui reprocher. Quelque part, elle va défendre les intérêts de son pays. Rien n'est gratuit. Donc, on va voir, évidemment, il faut suivre ça de façon très, très attentive. Mais j'allais dire, il faut aussi l'expliquer, il y a quand même aujourd'hui un grand perdant. Ce grand perdant, je regrette de reste qu'on parle entre gagnant et perdant, parce que derrière, quand on parle comme ça, c'est l'Europe qui perd. Mais c'est vrai que le chancelier allemand, Friedrich Merz, poussé, évidemment, pour le signer, quoi qu'il arrive, c'est du reste, je pense, lui qui avait largement été derrière la présidente de la Commission lorsqu'il avait incité...
Avec les Espagnols, avec les pays scandinaves.
Oui, c'était vraiment lui qui était à la manœuvre, évidemment. Aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause. Et c'est pour ça qu'il va falloir être très attentif.
Est-ce que pour autant, on peut dire que c'est une victoire pour Emmanuel Macron, pour Giorgia Meloni et par ricochet pour les agriculteurs
alors,
français?
Alors, je vous le dis, j'aime pas beaucoup qu'on parle d'échec ou de victoire, parce qu'encore une fois, l'Europe doit arriver comme au rugby, en pack. Bon, là, évidemment, le pack, il est un peu fracturé. On est obligé de le dire, hélas. Mais c'est vrai que le président de la République menait à juste titre, et je l'ai dit, et bon, pourtant je suis pas un suspect, j'ai aussi évidemment un œil très attentif sur les aspects libéraux, je suis un libéral, mais c'est vrai que cet accord qu'on négocie depuis 25 ans, il a été initié il y a 25 ans, il y a un quart de siècle, et aujourd'hui ça correspond plus à ce qu'on fait. C'est bien d'avoir des accords évidemment de commerce, et surtout avec cette partie du monde.
Donc vous faites partie de ceux qui disent on a bien fait de pas le faire.
Je l'ai toujours dit, il y a un volet qui est très, très, très positif, c'est le volet évidemment industriel, et un volet qui n'est pas aujourd'hui satisfaisant, c'est le volet agricole, donc il faut encore...
Et donc si je vous comprends bien, vous dites, même s'il y a des côtés positifs, il ne faut pas pour autant abandonner des filières agricoles entières au profit de l'industrie, même si on se tire une balle dans le pied d'une certaine manière.
La vie politique, c'est pas où, la vie politique, c'est et à partir du moment où il y a une partie très importante de ceux qui vont être impactés par cet accord, qui ne sont pas à juste titre satisfaits, il faut en tenir compte. Donc voilà, il va rester maintenant, je ne sais pas, est-ce que ce sera 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, on verra. L'histoire n'est pas encore écrite, il va falloir donc utiliser ce temps pour pouvoir agir de façon, encore une fois, concertée avec ceux qui pensent comme nous, et ce sera évidemment, sera évidemment pas les Allemands.
Vous avez dit, Thierry Breton, il y a des perdants, vous avez cité le chancelier allemand, la présidente de la Commission européenne aussi, mais voir Emmanuel Macron aux côtés de Giorgia Meloni, du Hongrois Viktor Orban, c'est pas là où on l'attendait, Emmanuel Macron, et je me pose la question de savoir si au fond, à travers ce débat sur le Mercosur, il n'est pas un petit peu en train de d'abandonner son propre héritage européen, parce que ça donne tout ça une image de l'Europe absolument déplorable.
Si vous permettez, je pense qu'on mélange un peu plusieurs choses. Il y a effectivement les partis politiques ou les couleurs politiques de ceux que vous venez de citer en particulier. Mais enfin, c'est ça l'Europe. Et c'est normal que dans l'Europe, il y ait des partis différents, et c'est comme ça. C'est notre diversité. Mais derrière, il n'y a pas que Madame Meloni ou Monsieur Orban. Il y a aussi Monsieur Donald Tusk, le Premier ministre polonais. Il y a aussi les Belges, il y a aussi les Irlandais. Donc je peux vous en citer un certain nombre. Les Autrichiens. Donc voilà. Donc derrière, encore une fois, et ça veut dire quoi, Monsieur Neumann? Ça veut dire que c'est essentiellement l'Europe agricole. Il faut en tenir compte. Et c'est vraiment important. On marche sur deux jambes. On ne marche pas uniquement sur l'automobile. On marche sur deux jambes.
Oui, c'est intéressant ce matin de vous écouter, d'entendre un libéral comme vous dire, même si c'est bon pour notre industrie, il ne faut pas pour autant sacrifier l'agriculture. J'entendais ici même, cette semaine, Dominique Schœlcher, le patron de Coopérative U, qui disait, le Mercosur, c'est le Chine de la concurrence déloyale. Il disait, nous, on n'achètera jamais ces produits d'Amérique latine, s'il y a les produits équivalents français. Est-ce que vous dites ce matin qu'au fond, toute la grande distribution devrait réagir de la même manière?
Non, là, je veux pas du tout, c'est eux qui décideront. Et je dis qu'encore une fois, il y a des solutions, il y a des clauses de sauvegarde. Celles qui ont été mises sur la table, pardon de cette expression, mais c'est une usine à gaz. Donc il faut faire les choses de façon beaucoup plus simple, plus contrôlable. Parce qu'encore une fois, derrière, il n'y a pas uniquement la nécessité d'avoir des accords équilibrés. Il y a aussi la raison pour laquelle, pour nous en Europe, c'est vrai que l'agriculture a des contraintes, parce que pour nous, la sécurité alimentaire, la sécurité, on le voit en ce moment, effectivement, avec ce qui se passe notamment dans notre cheptel, la sécurité est absolument indispensable, donc on doit imposer aux autres les mêmes normes qu'on impose pour les nôtres.
Mais c'est ça tout le vrai sujet, au fond. Comment on explique à des agriculteurs qu'on va importer en France et en Europe des produits qui ne répondent pas aux normes qu'on leur impose à eux, des normes sanitaires, des normes sociales, environnementales? Comment on n'imaginerait pas ça, par exemple, pour l'importation d'une voiture?
Eh bien, ça donne donc effectivement le mal-être qui se traduit par les mouvements dont on parlait au début de notre entretien. Et c'est la raison pour laquelle, 1, le message est entendu. 2, la France et les Français sont avec les agriculteurs. 3, il faut qu'on pèse ensemble. Et c'est pas la peine d'aller déverser je ne sais quoi ou casser je ne sais qui.
Juste un dernier mot sur ce fameux traité du Mercosur. On a bien compris qu'il était reporté de 3 semaines à 17 nuits, Ursula von der Leyen. C'est un report diplomatique. Ça veut dire qu'il est enterré, il est repoussé au calendrier grec. Ou au fond, ce qu'on est en train de vivre, on va le revivre de la même manière après les fêtes de fin d'année?
Eh bien ça, justement, personne ne le sait. Et c'est donc maintenant qu'il va falloir, je dirais, utiliser ce temps. Alors, c'est la Commission qui dit ça, je pense qu'elle s'est avancée. À partir du 1er janvier, c'est plus le Brésil qui prend la présidence du Mercosur, ce sera le Paraguay. Le Paraguay est beaucoup plus réticent que l'était Monsieur Lula, le président du Brésil. Donc on va voir. On va voir, et c'est aussi la raison pour laquelle, entre nous, il faut le dire, la Commission était aussi pressée pour aller signer avant Noël, parce qu'avec Lula, elle savait qu'elle avait un allié. Avec le Paraguay, ça va être une autre histoire.
C'est moins clair.
Voilà, il va falloir utiliser tout ça, c'est la politique.
Alors, je le disais, vous êtes aussi ancien ministre de l'économie. J'imagine que vous suivez attentivement ce qui se passe au Parlement. Est-ce qu'on aura un budget pour Noël ? Il y a cette fameuse commission mixte paritaire, cette députée, cette sénateur qui se réunit aujourd'hui à Matignon. On laisse entendre que la radicalité de certains sénateurs de droite fait que tout ça est déjà voué à l'échec avant même d'avoir commencé. C'est quoi la porte de sortie pour Sébastien Lecornu ? Comment on fait pour avoir un budget là avant la fin de l'année?
J'ai pas envie de vous faire une confidence, Laurent Neumann. Ce matin, vous me dites vous suivez attentivement. J'ai presque envie de vous dire que non, je suis plus attentivement, parce que je suis comme beaucoup de Français, on en a assez de ce qui se passe aujourd'hui, je dirais.
C'est ce que disent beaucoup de parlementaires.
Hein. Et beaucoup de chefs d'entreprise. Parce qu'on en a assez de ce qui se passe. 4-5 gouvernements depuis la dissolution. Vous savez, les entreprises, elles ont compris que il fallait plus regarder ce qui se passe, parce que un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, le surlendemain c'est gris, donc ils avancent. Alors voilà, on a maintenant un PLFSS, un budget de la Sécurité sociale. On sait, il faut pas se raconter d'histoire, que le budget, il passera pas, donc on va avoir encore, c'est pas la peine d'essayer de se raconter des histoires, ça risque. Alors, j'ai pas de boule de cristal.
Et donc c'est comme le Mercosur, donc on partira vers de nouvelles négociations en janvier.
C'est pas la peine d'accuser, je crois, là encore, les uns et les autres. Malheureusement, je vais vous dire malheureusement, pourquoi je dis malheureusement ? Parce qu'on sait que ça va finir, évidemment il y aura un budget. Est-ce que ce sera par le biais de la CMP ? Est-ce que ce sera par le biais d'une loi spéciale, l'article 47 ? Est-ce que ce sera avec un 49.3, on aura un budget. Moi, je le dis aux Français aujourd'hui, c'est évident. Mais malheureusement, ce budget, Laurent Neumann, ben, il finira au-dessus de 5% de déficit.
Je le disais il y a un instant.
Et au-dessus de 5% de déficit, ben, c'est une tragédie pour la France.
Je vous ai lu, vous venez de publier un livre qui s'intitule « Les 10 renoncements qui ont fait la France ». Il y a tout un chapitre très large consacré à la dette. Je vais même vous citer, vous dites « Un pays qui ne compte pas est un pays qui ne compte plus ». Mais là, pour le coup, ce rapport à la dette, il est partagé par tous les bancs politiques. Le gouvernement a présenté un budget sous les 5%, il sort du Sénat à 5,3%. Clairement, on sera au-dessus de 5% et la dette, on s'en occupera plus tard. C'est ça le message.
Eh bien, voyez-vous, c'est pour ça que j'ai intitulé ce chapitre que vous citez dans mon livre « Les 10 renoncements qui ont fait la France ». J'ai essayé de comprendre comment on en est arrivé là. Pourquoi, depuis un certain nombre d'années, la France renonce ? Et depuis 1974, on renonce à avoir un budget à l'équilibre. Et là, on avait dit, qu'on avait juré que ça y est, là, on sera vraiment en dessous de 5%, et ben patatras, on va être encore à 5,3 ou 5,4%.
Il faut peut-être expliquer, pardon Thierry Breton, pourquoi ce seuil de 5% est important. Le gouverneur de la Banque de France dit, si on est au-delà de 5%, on met clairement la France en danger. Il a raison ou c'est excessif ?
Le seuil de 5%, c'est parce que depuis maintenant 5 ans, on n'arrive plus à faire un budget en dessous de 5% de déficit. On est le seul pays d'Europe, je le dis bien pour nos téléspectateurs, qui n'arrive pas à faire un budget en dessous de 5% de déficit. 5% de déficit, ça veut dire 150 milliards de dettes en plus tous les ans. Et on n'arrive pas à déséquilibrer. La France engrange, avec ses taxes et rentrées diverses, 1500 milliards par an, elle dépense 1670 milliards. Ça fait 170 milliards de plus. 170 milliards, c'est deux fois l'impôt sur le revenu de tous les Français. On n'arrive plus à vivre, encore une fois, de façon équilibrée.
Oui, pardon. Donc, je sais que vous regardez moins, peut-être, vous venez de me le dire, ce qui se passe au Parlement. Enfin, tous ces chiffres, ces données-là, nos parlementaires de droite, de gauche, ils les ont, comme vous. Donc, il est où l'intérêt général au moment de voter ce budget ?
Ben, vous voyez, ça a fait tomber l'un de nos nombreux premiers ministres, François Bayrou. Il a vraiment fait un travail pédagogique très important. Il a expliqué aux Français. Il a tellement expliqué que finalement, on n'en a plus voulu. Et c'est bien. Alors, évidemment, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Il y a des voix. Les Allemands étaient dans une situation difficile aussi. Ils se sont donné les moyens de le faire, et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont mis tout simplement dans leur constitution l'obligation de ne plus avoir de budget en déséquilibre.
La fameuse règle d'or.
Et ben, je pense que la France va devoir passer par là. C'est aussi l'une des propositions que je fais dans mon livre.
Et on va revenir à l'Europe, parce qu'il y a une actualité aujourd'hui, c'est Chine qui va savoir si le tribunal judiciaire de Paris suspend cette plateforme ou pas. C'est une demande de l'État à cause de tous les produits illicites qui étaient vendus sur cette plateforme de commerce. Vous vous souvenez, les poupées pornographiques, les armes de catégorie A. Est-ce que c'est la bonne méthode, au fond, pour faire plier Chine, de passer par la justice française ? On revient à notre sujet de départ. Elle est où, l'Europe ? C'est pas à l'Europe de gérer cette question-là ?
Alors, Chine, vous avez parfaitement raison. Chine est une plateforme donc que maintenant nos compatriotes connaissent. C'est une plateforme qui fait donc du e-commerce en particulier, et à ce titre, parce qu'elle a plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, elle est considérée comme ce qu'on appelle une plateforme systémique, c'est-à-dire une plateforme qui peut jouer un rôle important en cas de défaillance sur l'ensemble de l'Europe. Et lorsque j'étais commissaire, donc j'avais la charge de la régulation. Vous vous souvenez, c'est ce fameux DSA. Je crois que maintenant on a bien
Digital Services Act.
Absolument.
C'est l'Europe qui doit s'en occuper.
C'est l'Europe qui doit s'en occuper. J'avais moi-même du reste désigné, c'était mon rôle, hein, je le dis, Chine comme plateforme systémique, et à ce titre, elle a des obligations très importantes.
Mais pardon, je vous interromps, j'ai regardé les récents contrôles, entre 70 et 100% de non-conformité de ce qui est vendu sur la plateforme. Il y a des textes formidables, mais que fait l'Europe? Pourquoi ne sont-ils pas appliqués?
Eh bien voilà, l'Europe a cette obligation, et là encore, il faut demander effectivement à l'Europe de le faire, c'est une obligation, et si jamais l'Europe ne le fait pas, eh bien évidemment, la Commission est en infraction. Je suis de ceux, je n'ai pas encore une fois donné des bons points ou des mauvais points, mais compte tenu de l'impact délétère que Chine a démontré avoir sur en utilisant sa plateforme de façon non conforme, il est urgent que l'Europe intervienne, elle en a les moyens. Elle doit les utiliser, mais je rappelle que les États membres, et en particulier la France, ont aussi le droit, lorsqu'ils voient des infractions par rapport à nos lois qui se produisent sur ces plateformes, elle doit agir. C'est ce que la France a fait, à juste titre.
Mais si je résume,
il n'en demeure pas moins que l'Europe, à son niveau, doit aussi. Et voyez-vous, tout ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une Europe qui perd un peu son leadership.
C'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a toujours pas d'Europe de la défense. Les 27 se déchirent sur le Mercosur. On a parlé longuement. L'Union est incapable de se protéger contre ces plateformes chinoises. Mais j'imagine que Trump, Poutine, le président chinois, ils doivent se frotter les mains quand ils regardent ce qui se passe.
Je suis de ceux qui pensent, et c'est vraiment mon intime conviction, que nous devons être unis et ensemble à 27, parce que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, entouré de prédateurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis d'Amérique, notre seule vocation à nous et notre seule chance de salut, c'est d'être ensemble. Mais pour ça, on a tout ce qu'il faut. Il faut du leadership. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos institutions européennes, bien, force est de constater que sans leadership, ben voilà les discussions que nous avons. Il est urgent que nous ayons à nouveau du leadership au niveau de nos institutions européennes.
Merci Thierry Breton. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Laurent Neumann. Dans un instant, la semaine face à Canteloup avec Nicolas Canteloup qui revient sur une semaine riche en actualité.
RMC. Une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Apolline recevait Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, ancien patron de la SNCF. Et il est resté face à Canteloup.
Rebonjour, monsieur Farandou.
Bonjour.
Et son successeur à la SNCF, David Rameau.
Bonjour. Bonjour, Jean Castex.
Vous avez reconnu, monsieur Castex.
Les imitations sont tellement parfaites. Je voulais remercier Jean-Pierre Farandou, mon prédécesseur à SNCF, qui m'a laissé une entreprise dans un état. Avec des liaisons TGV qui changent la vie des gens, faut bien le dire, hein. Le Lyon-Bordeaux, parce qu'il est de Bordeaux, hein, le Lyon-Bordeaux direct, hein. Bon, qui fait un petit crochet par Paris.
Voilà.
Hein. Mais pareil, le Strasbourg-Brest, hein, direct, hein, qui fait un petit crochet par Perpignan.
Bien sûr.
Bref, il m'a laissé un maillage exceptionnel. Hein, vous voyez, ce qui fait que j'ai plus rien à faire, je prends tout.
Monsieur le Président, un mot pour les agriculteurs français.
Oui, écoutez, je comprends que ce soit difficile de devoir se séparer de son cheptel. Je sais ce que c'est, puisque moi, aux dernières législatives, on m'a battu la moitié de mes députés.
La colère des agriculteurs.
Écoutez, nos agriculteurs, ils sont bien sympathiques, mais je ne crois pas trop à leur combat.
Ah bon ?
Mais on nous dit qu'ils sont en détresse, en dépression, au bord du suicide, hein ? Et qu'est-ce qu'on voit sur les images chez vous, à la télé, chez BFM, hein, des agriculteurs tout souris autour d'un bras zéro, en train de préparer un méchoui, le café dans une main, le petit verre de gnôle dans l'autre main, hein, avec des grosses enceintes comme dans les rêves parties. Quand je parle des grosses enceintes, c'est les baffes.
Hein, ah oui, bien sûr.
Les mêmes rêves parties qu'ils dénoncent quand elles ont lieu dans leur propre champ. Et puis, on nous dit que les agriculteurs bossent comme des dingues, hein, qu'ils ont des journées à rallonge. Mmh. D'accord, mais qu'est-ce qu'on voit sur vos images, madame de Malherbe, hein? Pas une seule femme sur les points de blocage que des hommes. Hein, les femmes, elles sont tous à la ferme en train de trimer à s'occuper des vaches. Et pendant que les gars se tapent le carton et picolent sur les barrages routiers. Mais, et puis franchement, les agriculteurs pleurnichent qu'ils n'ont pas assez de sous. Hein, et bien, vous avez vu leur tracteur? C'est des tracteurs de 300 chevaux, 300 000 balles pièces. C'est le prix d'une Bentley neuve. Alors, on va me dire, oui, mais achète à crédit. Mais enfin, Dominique le sait. Vous en connaissez, vous, des banquiers qui vous prêtent 300 000 balles quand elle la ramasse au bord du dépôt de bilan? Non, non, ça n'existe pas. Donc, pour résumer, si les agriculteurs passent leur temps à se plaindre, c'est pas à cause de leur métier, c'est parce qu'ils sont français. Putain, j'aurais dû faire Premier ministre, président suisse.
Merci, monsieur le président. Justement, l'un des leaders de ce mouvement agricole est avec nous ce matin. Bonjour, Jérôme Baël. Vous refusez toujours l'abattage systématique?
Plus que jamais, madame Malèvre. Bonjour à monsieur Cher, qui distribue nos produits, je la remercie, des produits locaux. Quand on a élevé un cheptel, moi je vous le dis, madame Malèvre, on y tient, on les nourrit, on les soigne, on les voit grandir nos bêtes. Vous savez, pour un paysan, ses vaches, c'est comme sa famille. On les aime comme nos enfants. On ne veut pas qu'elles soient abattues froidement, qu'elles finissent comme ça, broyées, incinérées. Elles ne méritent pas ça, nos vaches.
Oui, c'est sûr. Ce sont des races à viande ou des races laitières?
Ben, à viande.
Ah oui, donc tôt ou tard, quand même, vous allez finir par les manger.
Non, ça a rien à voir. Ça a rien à voir, c'est comme le bon chasseur, le mauvais chasseur.
Ah oui.
Jamais on abattrait une vache. Non, on les respecte, nos animaux, nos bêtes. On les fait juste à un moment donné, quand elles arrivent en maturité, on les fait monter dans un gros camion. Voilà, bon, on les pousse un peu au cul parce qu'il faut quand même qu'elles arrivent à rentrer à 30 dans un camion pour 12, tu vois. Puis après, on leur fait coucou et la main. Tu sais, comme nos gamins qui partent en colonie de vacances. Moi, le camion s'en va, le rétroviseur fait coucou comme ça. Puis après, bon, elles ont sur place, bon, mais elles arrivent, elles ont des activités, tu vois. Comme les gamins, elles ont du découpage, un peu de gymnastique, font le poirier, font du trapèze, tu vois, accrocher les pattes arrière en équilibre, bien droite, ça fait un peu de gainage. C'est bon pour la santé.
Oui, enfin, c'est bon pour la santé, ça s'appelle quand même un abattoir, Jérôme Baël. À un moment, ça finit
non,
mal.
Non, on ne peut pas dire ça, madame. Malheur, voilà, je m'inscris un faux. Je m'inscris un faux. Les vaches, elles reviennent souvent d'ailleurs à la maison. Et on leur a toujours préparé une petite chambre qui est réservée pour elles. Et si la chambre froide est occupée, ben, on les déparle toujours. Il y a toujours un coin pour elles dans le congélo, dans le frigo. Voilà. Et puis on est toujours content de les retrouver au moment des repas. C'est convivial. Voilà, c'est sûr. Un moment de partage. C'est bien. Elles sont là. Nos vaches, on les oubliera jamais. Dans la preuve, on les a même amenées avec nous. Ouais, sur le plein de bocage. Sur le plein de bocage, elles sont là. Pas loin, bien au chaud, bras zéro. Et voilà. Putain, Christian! Putain, pas trop cuite, je t'ai dit. Tu me l'as fait cramer, là!
On reproche aux Français de ne pas travailler assez. Nos voisins allemands travaillent chaque année près de 120 heures de plus que les Français. Angela Merkel, vous l'avez entendu, est avec nous.
Bonjour, monsieur Farano. Bonjour, Apolline de Mahalirp. Et c'est vrai que le temps de travail, c'est un vrai sujet pour vous en France. Et regardez, rien qu'ici dans ce studio, ils sont 15. D'accord? Mais il n'y a que Apolline qui bosse. Et puis, si ça va, les autres, tranquille. Regardez ce garçon, ce jeune garçon, Aurel Getsch.
Oui,
il est médecin. Puis, on dirait pas si, mais il a le diplôme. Il y a plein de patients dans les urgences qui attendent, qui sont bondés. Lui, non. Lui, il fait des petits selfies. Il rigole. Voilà. Et dimanche, il fait deux fois trois minutes de blague et après, la journée, elle est finie. Et Texer, il liste un genre. Ils font les formations, tu parles. Ils font pas les journaux entiers. Ils font le petit flash. Ils arrivent, petit flash, ils vont une pause. Et petit flash encore. Non, franchement, et c'est un pays de feignasses. Voilà, il y a Caroline qui bosse vraiment. Et Cantelou aussi, beaucoup.
Oui, Cantelou.
Oui, c'est peut-être le plus gros bosseur. Parce qu'Apolline, juste, elle lit, mais c'est Cantelou qui l'a tout écrit. Si. Tu sens l'orgueil d'Apolline, elle est perdue, elle est pauvre. Tu perds les têtes, on sent la perte. C'est pas ça.
Oui, regarde ma feuille. Arrêtez, c'est n'importe quoi, madame Merkel.
Merci Nicolas, c'était Face à Cantelou, que vous retrouvez absolument quand vous le souhaitez en podcast, lundi matin sur RMC, et dans un instant, les GG sur RMC avec Alain Marchal et Olivier Truffaut.